La Sexploratrice, présentée par Planetix. Devenez un aventurier du plaisir. Explorez vos fantasmes. Trouvez le produit adapté à vos besoins au meilleur prix. Planetix, 6 boutiques pour vous servir. Monplanetix.com.
I know how it sounds.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel.
La Sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de la Sexploratrice en compagnie de Max et Mel.
Hey, salut!
Hello, hello!
Hello, hello, coucou!
Hello, hello, coucou! Hey, on a de la belle énergie en studio.
De l'énergie tantrique?
Oui, de l'énergie tantrique.
Ouh.
On sent là, qu'il y a un petit quelque chose depuis son arrivée, c'est fou, fou, fou. Mais tout d'abord, dites-nous d'où est-ce que vous nous écoutez. Comme toujours, on aime ça savoir. Êtes-vous dans votre lit, dans votre cuisine, dans votre camion, dans votre voiture?
Dans votre cuisine, tu penses qu'il y en a qui nous écoutent debout dans la cuisine, une main sur le comptoir, en regardant le micro-ondes? En faisant la vaisselle, ouais, peut-être.
Peut-être.
Ouais, c'est clair.
Ouais. Ou en rediffusion.
Devant le four.
Si vous êtes en rediffusion, écrivez-nous. La Sexploratrice à commercial radiox.com. Je veux savoir à quel point il y en a qui nous écoutent en rediffusion. Et ouais, écrivez-nous donc ça, là.
OK, quand ils vont le réécouter.
Quand vous allez le réécouter.
OK, fait qu'on prévoit recevoir des textes dans les prochains jours.
Sur les réseaux sociaux, on appelle ça un replay, tu sais. Dites-nous si vous nous écoutez en replay. Puis les gens écrivent en dessous replay. Mais là, nous, on est audio, fait que...
Si vous êtes dans le moment présent, ben tant pis pour vous.
Là, par exemple, je veux qu'on règle quelque chose tout de suite.
Vas-y donc.
Ben là, t'as bien vu, là, presque à chaque jour, je t'envoie un screenshot de quelqu'un qui me dit qu'il m'a vu à quelque part puis qui a pas osé venir me parler.
Ouais.
Là, venez nous parler.
T'as envie de ça?
Ben oui, là, je préfère que la personne vienne me parler sur le champ que, comme là, bon, il y a quelqu'un qui m'a écrit qu'elle nous avait vu, moi et Yannick, au spa, dans Charlevoix.
OK.
Elle, j'ai pas osé aller vous voir, mais je vous ai vu, toi et Yannick, au spa, je suis comme... OK.
Mais c'est un peu creep.
Je te connais
c'est...
pas.
J'aurais... C'est vraiment creep. Là. Je t'ai vu de loin au spa.
Oui.
Je suis pas venu te voir.
Ensuite, j'ai Valérie, son conjoint. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Par exemple, à la lutte samedi soir, il y avait vraiment beaucoup d'auditeurs. Là. C'était fou.
Ah, c'est cool, ça.
Puis Valérie, son conjoint, nous ont fait un petit coucou après l'émission. Puis elle a dit, j'étais gênée de venir te voir. Ben là, j'étais seule. J'aurais pu venir.
Ah, puis on n'est pas méchants. On mord pas.
Mais non, vraiment.
Le pire qui va arriver, c'est que tu vas te mériter un beau hello, hello, coucou.
Voilà.
Voilà, en
hey,
personne.
Oui, si on se voit, dites-moi, hello, hello, coucou. Tu vois, sur le live, ça commence à jouer. Allô, hello, coucou, dans mon truck. Joey nous écrit en direct de son truck dans le Long Island de New York.
Oh!
Wow!
Tu t'es évadé du Québec. Bonne
voilà. Il y a quelqu'un qui dit, je suis au lit pour vous écouter avec Julie. Oh, ça, c'est quelqu'un qui fait partie de nos réseaux sociaux, qui connaît notre invité. Je vous dis pas tout de suite, c'est qui. Quelqu'un qui nous écrit ensuite de mon camion direction La Pocatière et c'est Eric qui nous écrit Hugo de Lévis. Ensuite, Dave de Shannon.
Qui nous dit si je te vois, Max, tu vas y goûter.
Bon. Ah. Bon,
on dirait que je me sens pas bien, là.
Ça, c'est très
on peut-tu recommencer l'émission?
Mais non. Dave, qui est un auditeur, cool, qui interagit souvent avec nous. C'est toujours très apprécié, Dave, tes commentaires.
Ben
vraiment.
Oui, ben oui.
Merci
exactement.
Beaucoup.
Un bon vieux Yelp.
Yes. Donc, on a Steve qui nous écrit en direct de son truck sur la 401 Windsor, Ontario.
What's up, Steve?
What's up, Steve? Bonne soirée. Merci tout le monde d'être à l'écoute. C'est un plaisir de vous savoir avec nous. C'est maintenant le moment de vous présenter notre invité. La personne qui pourra vous aider à mettre un peu de feu dans votre vie.
Allô, allô, coucou!
Allô, oui!
Yes, sir! All right!
Hey, je pense que c'est notre première invitée qui le fait.
Hey, on l'engage. Veux-tu venir sur le show avec nous autres?
Allô, ah, allô, oui. Coucou!
Vraiment.
Donc, parfait, on a ça. La chance d'avoir avec nous Julie Isabelle, qui est coach et leader dans l'enseignement du Tao Tantra au Québec. Donc, Julie, tu accompagnes des hommes, des femmes, des couples à vivre une connexion profonde avec eux d'abord pour ensuite... la vivre dans leur relation.
Absolument et ultimement avec l'univers.
Oh! Là, on parle avec lui. OK. Là, faut que je vous dise, moi, je suis très ouverte par rapport à tout ça, la loi d'attraction, je parle de l'univers et tout. Mais le tantrisme, on dirait que j'ai de la difficulté à saisir ce que c'est exactement.
Eh bien, sais-tu quoi? T'es ouais. Tellement pas la seule.
C'est pas clair, on dirait.
Eh hey, non. Moi, là, quand le tantrisme est apparu dans ma vie, j'étais allée à 3 conférences de 2 heures. Puis après 6 heures, je pouvais toujours pas dire c'était quoi.
C'est ça l'affaire.
Mais
ça
on a 50 minutes.
Non, c'est ça, ça a l'air
mais je bavais, ça là. Ça avait de l'air tellement trippant. Je bavais, là, mais je ne cachais pas trop c'était quoi.
Mm.
mais j'avais compris l'aspect connexion.
Okay.
C'est ça que je voulais, puis c'est ça que je recherchais à travers le tantra.
De toi, ton parcours, là, avant d'aller plus loin dans le Tao Tantra, et non pas Théo Tantra, Tao Tantra, ton parcours à toi, Julie, t'as étudié le tantrisme, comment c'est arrivé dans ta vie? En fait, tu faisais quoi avant?
Hey, moi, j'ai un parcours tellement conventionnel. Là. Moi, j'ai été physiothérapeute pendant 10 ans. Puis là, il manquait quelque chose, là, tu sais. J'ai découvert la naturopathie. Je suis retournée à l'école, j'ai étudié 4 ans. J'ai pratiqué la naturopathie pendant 15 ans. Il manque encore quelque chose. Là. Je me suis dit, ah, tu sais, là, le yoga, c'est full à la mode. Hein? Donc, en 2016, je me disais, je vais aller me former comme prof de yoga, puis là, je vais méditer plus. Là, j'ai découvert ma passion pour l'enseignement. Puis là, crème, il manquait encore quelque chose.
Mais voyons. Mais là, attends un peu. Es-tu une éternelle insatisfaite?
Mais c'est juste que je pensais. Mais quand j'ai découvert le tantra, là, je suis devenue folle satisfaite.
Ah, OK. T'es une multipotentielle. Et là, t'as trouvé vraiment ce qui te fait vibrer.
Vraiment. J'ai trouvé, je pense, le cœur de mon essence. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'alimente? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie?
Mais c'est comme si tout ce que tu avais pratiqué avant était complémentaire de ce que tu fais aujourd'hui.
Ça m'a préparé.
Exactement.
Ça m'a préparé. Ouais.
Et là, donc, le tantra, bon, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement lié à la sexualité, bien qu'on a l'impression parfois, on dirait que tout le monde lie ça à la sexualité, mais c'est quoi? C'est une philosophie de vie? C'est un mode de vie? C'est quoi? C'est quoi le tantrisme?
Le tantrisme, c'est un art et une philosophie de vie à la fois. Donc, c'est un chemin spirituel qui vient de l'Inde, qui date de probablement plus de 7000 ans. C'est tellement ancien, le tantra. Mais bon, en cours de route, à un moment donné, il y a eu une invasion aux Indes et on a massacré les pratiquants du tantra, on a brûlé tous les livres, les enseignements, ce qui fait que c'est devenu une pratique très cachée parce qu'on avait peur pour notre survie et on a perdu beaucoup de références au niveau des livres.
Donc à la base, ça vient des Indes?
Ouais.
Et ça a été exporté par la suite comme mentalité?
Exactement, ça s'est répandu. Mais moi, je pense, puis là, je sors des écrits, là, je pense en fait que ça vient de l'ancienne Égypte.
Pour quelle raison?
Là, c'est comme. Je vais-tu dire ça à radio, moi, là?
Ah, ouais, tu vas le dire à radio.
Ouais, mémoire cellulaire, man. Mémoire de d'autres vies.
OK.
Résonance comme. Moi, j'ai vécu ça. Puis d'avoir des ouvertures, troisième œil, vision de vie antérieure. J'ai lu ça dans d'autres livres, mais là, tu sais, c'est pas des sources officielles. Puis ben, pour moi, ça a fait plein de sens. Non, c'est pas si important, mais ça fait des millénaires que ça existe.
Tu parles du troisième œil, OK. Là, je vais aller vers quelque chose de vraiment très léger, mais c'est juste que j'ai fait une expérience récemment et j'ai réalisé que, mais je sais pas le seul, avec le troisième œil ou avec quoi, mais
c'est
quand je me mets une clé dans le front,
bon,
à colle.
Ça recommence.
Non, mais des pièces de monnaie, des clés,
regarde,
ça tient.
Ben oui, OK.
Mais c'est pas à tout le monde que ça fait ça.
J'ai jamais essayé ça.
T'as jamais essayé ça?
Dans le front? Non.
Ah ben là, je pensais que t'avais une réponse pour moi.
Ben, pense-moi ta clé, on va essayer ça.
Ben, il y a peut-être un certain magnétisme.
Parce que là, bon, vous voyez pas, mais la clé tenait, là, dans mon front, là.
Ah, OK.
Elle tient dans ton front aussi.
Elle tient dans mon front aussi.
Mais en fait, tout ce qui est métallisé, pas nécessairement aimanté, là, mais le bois, ça tient pas. Tu sais, mais bon, une clé, la monnaie, tout ça, ça tient. Les bijoux, ça tient. Mais
j'ai pas de réponse à te donner. Ça sert pas.
Je pense que mon troisième œil était activé. Là,
c'est assurément parce que le cerveau génère un champ magnétique. Là. Ça, c'est. Je pense que c'est une évidence.
C'est ça?
Ben, je voirais difficilement. C'est soit ça ou t'as le cerveau, t'as le front très très gras. Là. Puis c'est pour ça que
non,
ça.
Non, c'est ça. Je l'ai essayé.
Étude en double aveugle.
Ouais, c'est ça.
Sur 3000 personnes pour voir si c'est une tendance généralisée.
Venez toutes à la station ce soir.
Non,
et
mais
on
à
va
la station,
ça.
On l'a essayé plusieurs personnes. Il y a peut-être une personne sur cinq avec qui ça fonctionnait pas. Là.
Mais t'as peut-être une intensité magnétique qui est plus élevée que la moyenne, ce qui expliquerait beaucoup
en tout
de choses.
Je serais curieuse, en ce moment, les auditeurs, collez-vous un dollar ou une clé dans votre front et dites-moi si ça colle, s'il vous plaît. 88-670-9098. Si je peux avoir une photo en plus, ça me ferait vraiment plaisir.
On est comme devenus des Mythbusters en deux secondes.
Non, mais je suis curieuse, puis j'aimerais qu'on m'explique, parce que même si j'essuie mon front, là, que je le rends vraiment très, très sèche, on peut pas dire que c'est l'humidité qui fait que ça colle, tu comprends? Donc, fait que c'est ça.
Bref, OK, attends, j'ai quelque chose ici. Oui, notre cerveau émet un champ magnétique, mais celui de notre grille-pain est beaucoup plus fort. Bon, c'est ce qu'affirme en blaguant la vulgarisatrice scientifique Viviane Lalande. Tout ça est issu d'un reportage de Radio-Canada et on apprend à ce sujet qu'elle note que les petits malins qui font tenir des objets métalliques sur leur front et expliquent ce phénomène par la soi-disant présence d'un champ magnétique émis par le cerveau ont tout faux. Ah ben, j'avais complètement tout faux. C'est avant tout le sébum. Ah, ben, j'avais pas tout faux, finalement.
Mais
produit par la peau qui permet un tel tour de passe-passe. Ça veut dire que t'as rien que le front gras, finalement. C'est un peu ça. Tu te laves-tu le visage?
C'est ce que je pensais, OK? C'est ce que je pensais. Mais je me suis tout essuyé là, avec la colle à friction et tout ça parce que je voulais m'assurer.
Mais le sébum, je pense que ça fait partie des pores aussi. T'as peut-être les pores plus ouverts dans le front.
Les pores de peau qui font...
Hey, on a-tu dérivé du sujet, nous autres?
Bon, alors on va revenir à notre sujet principal, le tantrisme.
En fait, ta question, c'était c'est quoi le tantra?
Oui.
Puis là, on est perdu de ça, puis on s'est perdu.
Voilà. Donc, c'est ce qui arrive souvent avec nous, en fait.
Ouais. C'est un chemin spirituel qui vient de l'Inde, dans les informations courantes, qui date de plusieurs millénaires, dont le but est l'illumination. C'est un chemin spirituel. C'est quoi l'illumination? C'est...
Est-ce que c'est sur l'échelle de fréquence? L'illumination, c'est vraiment d'être dans le top.
Oui, là, tu parles de l'échelle de conscience de Hawkins, effectivement.
Ouais.
Mais c'est quoi l'illumination? C'est quand tu arrives à être totalement qui tu es sans les masses de l'ego. Quand tu es qui tu es dans ton essence sans les filtres de l'ego.
Donc, est-ce qu'il faut tuer son ego complètement comme la philosophie bouddhiste nous l'impose?
Ben, j'aime pas le mot tuer, là, mais...
faut le mettre de côté.
Je dirais oui. Moi, effectivement, c'est la mort. La mort de l'ego, ou moi, je préfère dire que je laisse ma divinité aux commandes de ma vie.
OK.
Donc, je me laisse guider. Je me fie à l'intuition. Je prends plus mes décisions par juste des réflexions mentales, puis il faudrait que, puis qu'est-ce que les autres vont dire, puis je vais atteindre tel objectif. Alors, tout ça, ça va motiver mes choix. C'est juste, je suis à l'écoute de mon intuition qui va m'amener à une plus grande réalisation de moi-même.
Et ça veut aussi dire de laisser notre mentalité de victime pour la transformer par l'acceptation de soi, amélioration. Ensuite, j'avais focalisé sur le manque et l'insécurité. Ça, c'est notre ego qui est comme ça. Et on remplace ça par l'ouverture, l'abondance. Donc, c'est tout de mettre de côté tout ce qui, ce qui tracasse la majorité des gens, en fait.
C'est un exercice excessivement difficile.
Mais oui.
Ben, c'est le chemin d'une vie, on s'entend. Là. Tu ne règles pas ça de même en claquant des doigts après deux semaines de méditation.
Tu parlais d'un art aussi, le tantrisme. Je t'ai entendu dire ça en début d'élocution. Pourquoi c'est un art?
Hey, pour moi, c'est le chemin de la beauté. C'est vivre le moment présent, vivre juste la contemplation, être totalement ici maintenant, submergé par la beauté, submergé par... vivre ton moment présent, c'est bon, ça goûte bon, ça feel good. C'est tout ce qui anime tes sens.
Mais c'est là ça qu'on a l'air de désilluminer.
Extatique.
C'est ça, en fait, c'est l'illumination. On a l'air de désilluminer, mais c'est ça qu'on...
Est-ce qu'on aspire pas tous un peu à ça?
Oui, c'est
à
ça,
être
exact.
Totalement soi-même, à être bien dans sa peau, à être complet?
Bien, on aspire tous à ça.
Absolument.
Puis, mais on dirait que quand on croise des gens qui le sont ou qui... Tu sais, si moi, je suis trop en gratitude, on dirait que les gens me jugent vraiment. Là. C'est comme, ça se peut pas. Puis, tu sais, je me suis déjà fait lancer des espèces de commentaires vraiment négatifs. Mmh. Ça se peut pas que tu sois toujours positive. Ça se peut pas... C'est pas ça, là. C'est juste que, tu sais, j'essaye de transformer... le négatif en positif, puis je pense que c'est un peu ça, ben c'est ça, on devrait tous aspirer à ça.
C'est un miroir qui dérange.
Exact.
Qui rêve pas d'être positif, puis que toujours voir la vie avec ses bons côtés?
T'es un miroir qui dérange, j'adore l'expression. Je pense que la majorité des gens dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui sont peut-être accablés par le poids du quotidien. C'est difficile d'être toujours dans la gratitude, même si tu vis une routine qui est peut-être un peu éreintante, que t'es pas tout à fait heureux dans ta vie, que t'es pas complet. Fait que quand tu vois quelqu'un comme toi qui est dans le moment présent ou comme toi, qui est dans la gratitude, ça déstabilise. Tu comprends?
Ouais.
Ça nous ramène à nous, puis... Comme Julie l'a dit, c'est le miroir de la différence.
C'est vrai.
Puis un autre aspect, moi, que je trouve super important à mentionner, c'est que l'idée, c'est pas d'atteindre la perfection. Mm-hmm. C'est pas ça pour moi l'illumination. C'est pas la perfection.
C'est juste d'être bien.
C'est d'être totalement qui tu es et d'accepter toutes les parties de toi, même tes parties d'ombre. Mm. Moi, je prends mon exemple. Moi, je suis une personne très émotionnelle. Je peux être extatique. Puis je peux être dépressive aussi. Et je m'aime beaucoup plus, je suis beaucoup plus heureuse dans ma vie depuis que j'accepte ces deux polarités-là. Au lieu de lutter contre, oh non, je ne devrais pas être dépressée ou être déprimée. On s'entend, je ne suis pas.
Tomber dans dépression, mais
moi,
toxique.
J'ai des moments. Quand je suis frustrée, je suis frustrée. Quand j'ai de la peine, j'ai de la peine. Quand je ne file pas, je ne file pas. Puis quand je file good, je file good dans ta barnouche. Ouais. Quand je suis extatique, je suis très extatique. Puis pour moi, vivre ma vie de façon extatique, c'est dans. Même dans toutes les petites choses, c'est quand je mange, de créer une atmosphère que c'est wow, c'est de profiter d'un moment où ce que je mange, c'est oh my God, que c'est bon. Puis que là, je suis toute ma présence est dans ma bouche, dans l'explosion de saveur, dans la texture, dans le oh my God, ça, ce moment-là, je le vis à 200%.
Mais c'est le bonheur. J'ai l'impression que c'est le bonheur. Moi, en tout cas, je le vois comme ça, c'est de pas vouloir, de pas avoir envie d'être ailleurs que ici et maintenant, exact. Dans ce moment-là, tu sais. Mmh.
Sauf donc que le piège, ça, c'est qu'on veut juste être ici et maintenant quand ça feel good.
Mmh. Mmh.
C'est quand ça goûte pas bon que là, c'est dur d'être dans le ici et maintenant, puis dans l'accueil total de tout ce qui est. C'est comme, j'aurais envie d'être ailleurs. C'est, je résiste cette partie-là de moi où je voudrais que les choses soient différentes.
Puis d'en prendre pleine possession. Est-ce que c'est pour ça que tu dis que c'est un art? Parce que ça doit prendre beaucoup de pratique, comme tout art, avant d'arriver à maturité. Ça prend des essais, ça prend des erreurs. Ça prend du temps avant de pouvoir accomplir l'art à part entière. C'est pour ça que tu dis ça?
Ben, écoute, il y a plein de raisons pour lesquelles ça pourrait être un art. Puis oui, ça peut prendre du temps. Puis en même temps, ça peut prendre juste un claquement de doigts. Pour vivre cette espèce de transition dans ton état.
Une réalisation.
Oui, une épiphanie.
Une épiphanie.
Oui. Donc, ça peut prendre des décennies ou ça peut prendre un claquement de doigts.
Comment ça s'est fait pour toi?
Eh boy! Il y a eu des moments intenses. Moi, le plus... J'ai toujours été éveillée. Toujours eu conscience de plein de choses, mais j'arrivais pas
à saisir,
à libérer les masques. J'arrivais pas à me libérer de ma lourdeur, mais j'étais très consciente de ce qui allait pas dans ma vie. Et quand j'ai fait ma formation pour faire ce que je fais aujourd'hui en 2017, j'ai fait 20 heures de pratique par semaine pendant un an. Puis l'année d'avant, j'avais fait du yoga. Donc, tu sais, mon corps commençait à être préparé. À un moment donné, j'ai fait une semaine de camp de pratique intensive d'œufs de jade, une heure tous les matins, de breathwork, une heure par jour. Puis à un moment donné, à la quatrième journée, activation de Kundalini. Majeure. Féroce. Okay. Intense.
Pour les gens qui ne connaissent pas l'activation de Kundalini, c'est un peu ça l'épiphanie, en fait. C'est vraiment l'atteinte d'une espèce d'orgasme corporel. C'est l'illumination totale, c'est bien ça?
Bien... L'illumination totale, c'est faut pas le voir comme une finalité. Souvent, les éveils de Kundalini... La Kundalini, c'est une force de vie.
OK.
On va spécifier un peu parce que je m'attends pas à ce que la majorité des gens connaissent ce mot-là puis sachent de quoi on parle. La Kundalini, c'est vraiment une force de vie qui est représentée par deux serpents couchés à la base de la colonne vertébrale, au niveau du sacrum. Et lorsqu'elle s'éveille, en fait, c'est notre polarité féminine et masculine qui vont monter le long de la colonne vertébrale, qui vont s'entrecroiser dans nos chakras, qui sont des centres énergétiques, pour venir s'unir dans le troisième œil. Et quand ça s'unit, c'est la fin de la dualité. J'ai plus de polarité masculine et féminine, je suis
non-binaire.
Redevenue un avec la source.
OK.
Est-ce que ça se pourrait que physiquement, il y ait une explication à ça? C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui ont des montées de Kundalini dans des retraites, des trucs comme ça, et qui gardent des séquelles quand même quelques jours là, au niveau du système nerveux et tout. Parce que je pense que c'est pas tout le monde qui peut vivre une montée de Kundalini.
Ça peut se passer de toutes les façons. Ça peut être une histoire d'horreur que t'as aucune idée de ce qui t'arrive. Puis là, il y a un déclencheur. Déclencheur, ça peut être un soin énergétique, de la danse extatique ou de la danse tout court, la sexualité, les plantes médecines, de la méditation ou rien pantoute, puis ça part. Okay? Quand le corps est prêt, ça s'éveille.
C'est une montée de Kundalini.
Montée de Kundalini, puis là, ça se ressent dans le corps avec des tremblements, des soubresauts involontaires.
On dirait presque que la personne fait une crise d'épilepsie. Là.
Oui. Puis moi, mon chum, à l'époque, me disait, t'as de l'air possédé, tu sais. Donc, pourquoi on fait des tremblements comme ça? Parce que cette force de vie-là, elle est extrêmement puissante. Là, moi, je la compare comme un tsunami. Tu sais, essaye de rester debout devant un tsunami, toi, tu sais. Pas tellement de chance. Alors, cette force-là, qui est très puissante, c'est une force d'évolution. Elle veut te faire évoluer. Fait qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte dans tes chakras, dans tes centres énergétiques, puis elle pousse sur tes résistances pour les faire lâcher. Elle pousse dans ton chakra pour lui faire prendre de l'expansion, libérer ce qu'il a libéré, puis ensuite passer au suivant.
Vous pouvez trouver sur le web, d'ailleurs, des vidéos de gens qui vivent des poussées de Kundalini. Là, c'est très impressionnant. Là. Il y a des hommes baraqués, là, des qui pleurent, mais qui pleurent leur vie. Là. C'est comme si ça les libérait d'une pression énorme. Mais encore là, c'est pas il faut être préparé quand même à ça, hein, je pense.
Parce que c'est ça. Comment on fait pour en arriver là?
Idéalement, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe.
C'est ça.
Pour l'accueillir. La clé, là, c'est de s'abandonner aux montées de Kundalini. La pire chose à faire, c'est de la résister. Parce que comme je vous disais, c'est comme un tsunami. Tu peux pas résister un tsunami. Plus tu résistes, plus tu vas te faire souffrir.
Mais comment... Je comprends qu'il faut être préparé à l'accueillir, à la sentir monter, mais le chemin avant de se rendre là, toi, tu nous as partagé que tu as fait des séances une heure par semaine pendant à raison de 20 heures pendant un an. Est-ce que c'est ça qui est nécessaire pour pouvoir nouer avec
ça? Non. Puis la preuve de ça, c'est que là, je remarque depuis la dernière année, là, je rencontre plein de monde qui ont des activations de Kundalini. Moi, quand ça m'est arrivé en 2017,
on voyait pas personne. Ça. Moi, j'ai découvert ça dans les deux dernières années, là, et c'est grâce un peu aux réseaux sociaux, ensuite des amis. Mais il y a une personne proche quand même qui est allée dans une retraite comme ça, qui semble avoir une montée de Kundalini, mais elle est revenue vraiment... Je sais pas si c'est la plante qui l'a bu, ou en tout cas, il est arrivé quelque chose qui l'a complètement transformée, et elle est devenue hyper dépressive au point de s'enlever la vie. Donc, c'est là que je me dis, peut-être que c'est pas tout le monde qui peut...
Il y a des histoires d'horreur.
Est-ce que c'était seulement tributaire de ça?
C'est ça. Est-ce qu'il y avait autre chose derrière? Je le sais pas, tu sais.
Ouais.
Mais je pense que quand tu décides de participer à des retraites comme ça, tu dois quand même t'assurer d'être bien entouré puis d'avoir un soutien, là, si tu as une montée ou si tu as quelque chose.
Ah oui, pour, effectivement. Mais il y a ça maintenant depuis quelques années. Il y a des personnes qui offrent des soins d'activation de Kundalini. Maintenant, j'ai découvert ça quelques semaines, là, KAP, Kundalini Activation Process. Donc, il y a des personnes formées qui animent des séances avec de la musique, des fréquences pour activer la Kundalini.
Donc, il y a une formule?
Oui, il y a une formule, mais il y a aussi, c'est une forme d'énergie intelligente.
C'est vraiment, oui.
Moi, j'appelle ça l'effet popcorn.
L'effet popcorn.
Oui. Quand tu es en présence d'une personne qui a une Kundalini activée, toutes les personnes qui sont sur le bord, qui sont proches, là, pouf, ça les fait popper. Tu sais, comme avec la chaleur, le popcorn commence à popper. Ça fait ça dans les groupes. Quand il y a une personne ou plusieurs personnes que l'énergie de Kundalini est active, ceux qui sont prêts, ceux qui sont le bord, pouf,
il y a une philosophie qui veut, je sais pas si ça rejoint un peu le tantra, mais qui dit qu'on est tous connectés à la source, puis bon.
Ah ouais, c'est la base, c'est la philosophie de base.
On serait tous connectés.
C'est la loi de l'un. Si... On est tous un ensemble.
Exact. Donc, s'il y a une montée de Kundalini à côté, ben peut-être que ça va...
Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une part de simulation aussi de la part des gens qui sont là? De pas vouloir crouler sous la pression du groupe? On voit le phénomène dans, par exemple, des spectacles de avec Mesmer. Qu'est-ce qu'il fait, Mesmer, déjà?
De l'hypnose.
De l'hypnose, des spectacles d'hypnose. Le mot m'a échappé. Des spectacles d'hypnose où souvent des gens sont amenés à monter. L'exemple est un peu bric-à-brac, là, mais des gens sont amenés à monter sur le stage et simulent le fait d'être hypnotisés parce qu'il y a d'autres gens dans la salle. Est-ce que tu penses que c'est possible aussi que certaines personnes s'adonnent à ça dans ce genre d'activité-là pour justement pas être regardé de travers?
C'est un mouvement très involontaire du corps. Très difficile à simuler.
Non, je vais te montrer, là, tu vas être impressionné. Là.
Ça a l'air d'une prise de bacon intense.
C'est pas chic, là.
OK.
C'est quand pas charnel comme...
Tu mets ta main sur le ventre puis que tu sens, là, ça vient vraiment là, du fond du ventre. Là. Tu sens les espèces de spasmes là, puis c'est très rapide. Là. C'est pas un mouvement qui vient ici. Je pourrais partir de mes épaules pour essayer de simuler comme ça. Ça vient pas d'ici. Ça vient du fond de ton ventre.
Et ça prend combien de temps? Tu vas me dire, ça varie d'une personne à une autre, là, j'imagine, mais ces séances-là durent combien de temps avant d'en arriver à cette explosion énergétique-là?
Mais c'est pas tout le monde qui va y en arriver.
Mais non,
c'est
y
pas
arriver.
Tout le monde.
Si t'es prêt, tu vas lever. Si t'es pas prêt, tu vas
pas. Tu peux faire 10 séances, tu le vivras jamais. Tu peux en faire une, puis ça lève.
Ouais.
OK.
Mais moi, j'ose même pas, ça me fait peur. Non? Autant que je suis curieuse, je voudrais le vivre, mais ça me fait peur. Parce que j'ai une amie qui est capable de le vivre, puis c'est intense, là.
Mais j'avoue que les deux premières années suite à l'activation, c'est
parce que ça peut rester des jours, voire des semaines après dans ton corps, cette espèce de...
Oui.
Ben, ça a été quoi l'avant-après, toi?
J'ai eu le bonheur de le vivre d'une façon idéale où c'était pendant un breathwork, c'est arrivé. J'ai vécu mon expérience.
Breathwork étant un exercice de respiration.
Respiration profonde en continu, intense, sur une heure. Donc, ça amène un effet d'hyperoxygénation. Donc, ça amène vraiment des états de conscience altérés. Donc, à un moment donné, c'est ça. Ça a monté. Puis là, je me suis retrouvée dans un état comme complètement gaga. J'étais extatique sur tout ce que je voyais. Comme si j'avais pris des drogues, mais j'avais rien pris, là. Et là, j'ai compris que quand ces forces-là... quand j'ai compris et j'ai lu, effectivement, quand ces deux... polarité-là se rencontre dans le troisième œil pour la première fois. La glande pituitaire sécrète un liquide qui s'appelle Amruta, je crois, qui est une substance jamais métabolisée par le corps. Donc, ça m'a pris comme 4 heures à métaboliser ça. Et ces 4 heures-là, j'étais comme...
Ah! Est-ce que tu as des hallucinations?
Non, mais tout ce que je voyais, c'était plus beau que nature.
OK.
Donc, le décor était plus beau que nature. Tout ce que j'entendais, c'était extraordinaire. Puis là, je me disais, moi, si je vis comme ça jusqu'à ma mort, ça va être...
Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec le phénomène de rebirth, le concept de rebirth?
Les bases de breathwork sont similaires.
C'est la même chose?
Sont similaires. Ou à peu près. Oui, c'est ça. On s'inspire d'un principe de base puis voir des variations selon des approches différentes.
C'est fascinant, tout ça.
C'est vraiment, puis c'est accessible. Il y a des retraites Vipassana, par exemple, où tu peux aller, où tu peux vivre ce genre de truc-là là aussi. Là, j'ai un ami qui...
Vipassana, breathwork, danse extatique.
La danse extatique, c'est vrai.
Médecine, la sexualité, c'est un des plus grands déclencheurs.
Et là, on est toujours bien dans le show de la sexploratrice. Ouais, c'est bien beau, là.
Non, on va t'en parler,
Mais juste avant, il y a quelqu'un qui mentionne sur le live, est-ce que ça se peut que ce soit ce que mon fils a vécu un jour en soins de Reiki et s'est mis à faire la danse du bacon sur la table à Reiki? C'est probablement, peut-être, une activation de Kundalini.
Probablement. Produit.
Des soins de Reiki pour les gens qui ne sauraient pas c'est quoi? C'est quoi exactement?
Le Reiki, c'est une énergie de guérison universelle qui est canalisé. Quand tu es initié au Reiki, c'est que, on t'ouvre des canaux avec des symboles et tu peux canaliser une énergie de guérison universelle.
OK.
Donc, comme je disais tantôt, tout soin énergétique quelconque a... Et même un traitement d'ostéopathie, ça peut être n'importe quoi qui crée une ouverture, une activation de l'énergie, puis ça se déclenche.
Oui, parce que les ostéopathes, c'est un peu ça, dans le fond. Tu sais, il y a des ostéopathes qui vont toucher les os directement et tout, mais... Il y en a un en particulier, moi, celui qui traite mon fils et moi-même, il touche que notre tête.
Oui.
Puis lui, il parle de premier plan, deuxième plan. Moi, je comprends rien dans ce qu'il dit, là, mais ça marche. Ça guérit, ça aide.
On a des points d'activation sur notre corps, dans nos mains, mais nos pieds qui activent la kundalini.
OK.
C'est fou.
Je trouve ça vraiment fascinant. Moi, on dirait que c'est quelque chose que je viens de découvrir. Après 29 printemps sur Terre, je viens de découvrir ça. C'est fascinant.
Ben, en fait, moi, je connaissais ça, l'activation de Kundalini et tout.
Oui, bien, Alexine nous en avait parlé. Mais...
Oui. Puis, j'avais de la difficulté à faire le lien avec le Tantra et tout ça. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir éclaircir tout ça ce soir. On va aller à la pause parce que le temps file à la vitesse de l'éclair, comme toujours. Mais tout de suite au retour, on va parler du tantrisme sexuel.
Parfait.
Donc, le lien avec la sexualité. Vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix. 98.1 Radio X.
La Sexploratrice.
La Sexploratrice.
Avec Mel Trudel. Radio X.
Aïe, aïe, aïe! Tant de choses intéressantes à dire à propos du tantrisme. Ça n'a juste pas de bon sens. On n'a même pas abordé aucun des sujets que j'avais l'intention d'aborder jusqu'ici. Je veux qu'on parle de l'œuf de Jade, de pornographie, comment mettre du piquant, le théotantral, la masculinité sacrée, le féminin sacré, mais le slow sex.
Une émission sur chaque.
Quasiment.
Je pense que
tu reviennes.
Il va falloir que tu reviennes. De toute façon, tu as commencé en disant hello, hello, coucou, alors on t'a déjà adopté.
C'est ça. Julie, moi, je voulais voir avec toi, en fait, parce que moi et Max, récemment, on parlait de slow sex.
OK, oui.
Et on a découvert le slow sex. Et c'est quelque
pas
chose
ensemble.
Que je... Non, pas ensemble. Okay. Chacun avec notre partenaire, notre plus un. Et bien que j'ai déjà tenté l'expérience du slow sex avec d'autres partenaires... Ça n'a jamais été aussi intense qu'avec mon partenaire actuel, le partenaire de qui je suis amoureuse en ce moment. C'est vraiment intense, puis il y a une connexion vraiment profonde. Tu sais, c'est pas qu'une jouissance physique sexuelle. C'est vraiment, il y a quelque chose de plus. Et Max a soulevé un point intéressant. Il me disait, mais ça peut-tu être parce que t'aimes la personne? Que ça fait ça?
L'amour.
C'est ça, est-ce que... Parce que je voyais dans un groupe de polyamoureux, justement, quelqu'un qui... qui se demandait, est-ce que ça se peut qu'on puisse vivre du sexe tantrique seulement qu'avec un partenaire? Parce que sur les trois partenaires, seul le partenaire avec qui il y avait une véritable relation amoureuse, c'est avec cette personne-là vraiment qui était capable d'aller vivre justement cet orgasme corporel, si je peux dire ça comme ça, qui est plus intense que l'orgasme sexuel. Et ça me... Moi, ça vient me dire que... Ça me fait réaliser également que je suis... davantage avec des partenaires envers qui j'avais pas d'amour, en fait, lorsque j'étais solo poly. Mettons, j'avais trois partenaires fixes durant 4 ans, mettons. C'était les trois mêmes partenaires que j'avais, mais c'était pas mes amoureux. J'étais plus dans la performance que dans l'expérience. Donc, que d'être amoureux de la personne avec qui on fait l'amour, ce serait plus facile d'atteindre le sexe tantrique, finalement.
Absolument.
Ah oui?
100% d'accord.
OK.
Ouais.
Oui.
C'est la connexion.
Parce que c'est la connexion. Puis la connexion, c'est quoi? C'est la circulation d'énergie entre deux personnes. Donc, quand tu as une expérience sexuelle avec quelqu'un qui n'a pas vraiment de circulation d'énergie dans tout votre corps, bien, ça reste une expérience localisée plus génitale.
Donc, le slow sex, ça peut être plate. T'sais, ça peut être long avant que l'excitation monte si tu n'as pas de connexion autre que sexuelle. Là.
Clairement.
Parce qu'il ne se passe pas grand-chose génitalement.
Mais quand l'énergie se met à circuler, que là, elle monte, de ton centre sexuel dans ton cœur, ben là, on est ailleurs, là. Puis après, quand ça monte dans ton cœur, puis là, ça commence à monter dans tes chakras supérieurs, le troisième œil, intuition, perception, ben là, on est encore plus ailleurs. Donc, oui, la connexion va faire une énorme différence entre une expérience sexuelle qui est plus génitale pour le plaisir physique et l'orgasme que l'on connaît, que quand il y a une grande connexion, puis toute cette énergie-là monte dans le cœur, puis on l'accueille dans le cœur, puis là, ça se met à circuler dans notre corps. Là, moi, je dis que le tantra, c'est un révélateur de vérité. Donc, quand il y a de l'amour, ça révèle l'amour. Quand il n'y a pas de connexion, ça révèle le manque de connexion.
Est-ce que deux personnes qui sont habituées de pratiquer le tantrisme pourraient se mettre dans cette prédisposition-là à jouer dans les chakras sans nécessairement qu'il y ait de l'amour?
Oui. Absolument.
Parce qu'ils sont ouverts.
C'est possible. Ils sont ouverts. Dans les pratiques anciennes, dans les pratiques de tantra rouge, donc de sexualité tantrique, donc il y avait des ashrams où il y avait un gourou qui initiait des personnes. C'était pas des couples, c'était pas des amoureux. Ils étaient choisis, matchés en fonction
vrai,
de leur personnalité, mais ils pratiquaient pendant des années avant de pratiquer à deux.
C'est le gourou qui choisissait les personnes, hein?
Oui.
Hey, ça, c'est fou, là.
Ouais.
Mais, puis en fait...
Pourquoi? Parce que le but, c'était pas l'amour. C'était l'élévation spirituelle. Donc, tu voulais d'abord travailler sur toi-même, à activer ton énergie, apprendre à faire circuler ton énergie avec fluidité, ouvrir tes chakras, ressentir, avant de pratiquer avec quelqu'un.
Mais l'élévation spirituelle, est-ce que c'est donc de dire que c'est la forme d'amour absolu envers nous et envers l'amour qu'on peut porter aux autres?
C'est l'amour inconditionnel.
Voilà.
Et là, moi, j'ai vu que tu organisais des soirées pour les couples. Les gens seuls peuvent participer, mais j'ai vu une vidéo où les couples étaient assis en à cheval. Finalement, madame était par-dessus son conjoint.
Okay, ça, c'est mes retraites d'une journée. C'est pas des soirées que j'organise.
Ah, excuse-moi.
C'est mes retraites intensives d'une journée tantra couple.
OK, tantra couple. Oui. Là, je sais pas si c'est ça, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les débuts d'Occupation Double, à l'époque où je l'écoutais, c'était deux saisons.
Ben oui.
Fait que c'est la deuxième saison, je pense. Il y a Joanie, là, qui avait les cheveux tout frisés avec son Cendric.
Qui ont fait du breathwork.
Exact.
Et qu'elle a eu un orgasme énergétique.
Elle a eu un orgasme énergétique. Ça m'a toujours fascinée.
Ouais.
Donc, c'est ça, finalement, que. En fait, c'était une activation de Kundalini, c'était du tantrisme.
Un orgasme énergétique. Ah. C'est pas une activation de Kundalini. Mais dans les deux cas, c'est de l'énergie. Mais c'est une manifestation différente.
OK. Puis elle était pas prête à ça. Tu sais, je veux dire, elle s'attendait pas à ça. Elle l'a vécu.
Oui. C'est un phénomène spontané.
Oui. OK. C'est pas ça que c'est pas ce que les gens peuvent vivre dans tes retraites. Même si c'est la même position là, que j'ai vue sur les vidéos.
En fait, ce que j'enseigne dans mes retraites, c'est des pratiques à faire à la maison pour se préparer, pour développer le corps, développer l'habileté, développer la respiration à deux, pour éventuellement faire en sorte qu'on puisse vivre cette expérience-là. Mais avant de dire ça, j'ai besoin de dire que le tantra, c'est une approche où il n'y a pas de performance, puis il n'y a pas de but. Mmh. On ne fait pas ça pour avoir un orgasme énergétique.
OK.
Ça arrive si ça a arrivé.
On fait ça pour quoi? Alors?
Pour l'illumination.
Pour l'illumination, toujours et encore.
Toujours élever,
pour faire circuler l'énergie dans nos chakras supérieurs, pour connecter à notre âme, pour connecter à l'amour inconditionnel. Mais dans les faits, honnêtement, on n'est pas prêt à ça, nous, ici. Okay, ça, c'est une super belle théorie.
C'est l'impression que j'ai aussi.
Oui.
Ben, on est conditionné à la sexualité, phallocentré, orgasme sexuel, physique.
Je pense qu'il y a un grand fossé entre ce que tu nous décris étant le tantrisme et le monde occidental dans lequel on est, et l'ésotérisme et l'autre bord du fossé avec le tantrisme. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça comme ça.
Absolument. Tu as tout à fait raison. Et je te dirais que mes trois why dans la vie, de pourquoi je fais ce que je fais avec le tantra aujourd'hui, c'est un, vulgariser ce qu'est le tantra. Deux, je veux voir des couples plus heureux et épanouis.
Mm-hmm.
Et je souhaite de tout mon cœur redonner les lettres de noblesse à la sexualité. Alors, j'utilise les bénéfices secondaires de la pratique du tantra, qui sont les orgasmes énergétiques, les orgasmes dans tout le corps, l'activation de la kundalini, pour commencer à amener les gens sur un chemin d'éveil spirituel. Puis je m'en cache pas.
Ça veut dire quoi, redonner les lettres de noblesse à la sexualité?
Ben, t'as nommé tantôt, t'aurais aimé qu'on parle de pornographie. Je pense que la sexualité de nos jours, elle est, souvent apprise sur Internet avec la pornographie.
Oui.
Par nos jeunes ados, garçons et filles qui embarquent sur le chemin de la sexualité avec ce qu'ils ont vu.
Et qui tombent dans l'anxiété de performance.
Oui.
Et avec des modèles qui sont carrément loin de la réalité.
Qui est très vide, qui est aucunement axé sur le plaisir de la femme, la satisfaction de la femme, la réalisation de la femme, même au contraire, c'est très dévalorisant, de mon point de vue.
Oui.
C'est vraiment une question de point de vue. Oui. Et même pour les hommes aussi, où ils deviennent vite blasés. Très vite blasés de la sexualité.
C'est qu'au fil de l'écoute, en fait, c'est que plus ils en écoutent, plus la dopamine et plus les orgasmes arrivent rapidement. Donc, quand on vient qu'à vivre ça dans la réalité, c'est plus difficile d'obtenir un orgasme parce que c'est moins rapide, c'est moins direct.
Et c'est vide. C'est vide de sens, c'est vide de contact humain, c'est vide de... satisfaction physiologique de relâchement.
Non, j'ai le sentiment aussi que la pornographie et la surstimulation à celle-ci apportent le désintérêt de la chose et le manque de spontanéité de ce que devrait être la sexualité. Mm-hmm. C'est-à-dire, je sais pas pour vous, mais à trop consommer de pornographie, à un moment de ma vie, je me suis mis à voir la chose de la sexualité en scène. C'est-à-dire que lorsque je couchais avec ma partenaire, c'était des scènes. C'était pas spontané, c'était pas naturel, c'était pas organique, c'était comme prémédité. J'ai l'impression que la surstimulation à la pornographie provoque ça chez beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes.
Mais surtout les jeunes.
Et ça amène...
Imagine, c'est le modèle qu'ils ont présentement au bout des doigts.
Puis tu le disais tantôt, ça amène la pression.
Ouais.
Ça amène des enjeux
c'est
qui sont...
C'est aucunement centré sur le moment présent.
Exactement.
Et sur ce que tu vis avec ta partenaire. Parce que t'es dans ta tête avec d'autres femmes, dans d'autres scénarios.
Exactement.
T'es pas ici maintenant avec la personne.
Voilà.
Exactement.
Mais comment on peut se défaire de ça? Je pense que c'est presque impossible.
Ben, tu peux ne pas en consommer.
Ne pas consommer de pornographie.
Mais est-ce que la lecture érotique ou de la porno audio, ce serait mieux ou ça rejoint un peu...
Ben, on reste dans la même catégorie. On reste dans la même catégorie. Puis honnêtement, le tantra est un grand chemin pour les personnes qui veulent se sevrer des effets de la pornographie.
Ah oui, OK.
Oui.
Intéressant.
Donc, je veux complètement reconditionner mon corps à ressentir les sensations. Donc, c'est comme si j'étais un enfant, puis je recommence à me toucher. Qu'est-ce que je sens? Quelle émotion ça génère? Si je veux plus aller dans des fantasmes, OK, sur quoi je centre mon attention ici, maintenant? Est-ce que je veux connecter l'acte sexuel à l'amour? À quoi je veux connecter ça?
Parce qu'il y en a pour qui c'est impossible d'avoir un orgasme sans avoir de pensée sexuelle ou de fantasme dans leur tête.
Tout à fait. Moi, la première fois que j'en ai eu un, j'ai eu besoin de fantasmer. Mm-hmm. Hey, mon Dieu, je viens de trouver le chemin. Et là, j'ai étudié les fantasmes pendant des années.
Ouais.
T'étais dans le sous-bois, finalement.
Je te dirais pas où j'étais.
OK, bon, parfait.
Et pour ce qui est de l'œuvre de Jade, est-ce que c'est quelque chose qui peut aider la femme à,
au niveau
énergétique, à atteindre l'orgasme?
Extraordinaire. Premièrement, là, l'œuvre de Jade, pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, c'est une pierre d'un cristal quelconque, mais qu'on dit jade, c'est que dans le Tao ancien, la pierre de prédilection, c'était la pierre de la royauté, c'était le néphrite de jade ou la jadéite, qui était la pierre précieuse du jade. Donc, on taillait cette pierre-là en forme d'œuf pour l'insérer dans le canal vaginal. Et là, la femme était éduquée à faire des contractions du plancher pelvien.
Un peu les exercices de Kegel qu'on connaît aujourd'hui.
Oui, entre autres, mais aussi développer la sensibilité de ces muqueuses vaginales du fait que le moindre petit mouvement et même une pénétration immobile peut déclencher des orgasmes.
Oui!
C'est comme...
Tu fais juste sentir.
Mais tellement! Ouais. J'ai vécu la... Oui, puis...
C'est comme aiguiser un couteau. Je comprends pas.
Non, en fait, ton œuf est à l'intérieur de toi.
Oui.
Quand tu contractes,
mais ça développe la sensibilité des parois vaginales.
Oui, exact.
Donc, c'est comme affûter un couteau.
Ça vient stimuler tes terminaisons nerveuses le long de ton canal vaginal. Donc là, ça aide à reconnecter les ondes dans ton cerveau à l'activation de ces muqueuses-là et les sensations très subtiles.
Donc, quand tu es excité, la pression sanguine va se décupler finalement. Ça va augmenter davantage parce que toutes tes terminaisons nerveuses, justement, sont activées, travaillées. Et ça peut faire en sorte que, juste en contractant, tu peux atteindre un orgasme.
Absolument.
Ça, ça je l'ai vécu. Et,
en contractant seulement les parois, en contractant seulement le muscle ou avec l'œuf?
Seulement en contractant le plancher pelvien. Mais au début, tu peux le pratiquer avec l'œuf, c'est encore...
Ouais.
Pour l'atteindre.
En fait, tu développes des orgasmes du col de l'utérus parce que quand ton œuf monte en haut, ça vient stimuler au niveau du col et développer la capacité à ressentir l'orgasme
du col.
De cette partie-là précise qui est un orgasme vraiment très, très, très profond.
Ah ouais?
Vraiment. Puis là, quand tu fais...
On est chanceuse hein, d'avoir tout ça.
Hey, t'as-tu réalisé que sur le corps de la femme existe...
8000 terminaisons nerveuses pour le clitoris versus 5000 chez les hommes?
Oui, mais en fait...
Bon, ça faisait longtemps que tu l'avais réalisé, celle-là.
Le clitoris, c'est le seul... C'est pas vraiment un organe, mais c'est le seul truc dans notre corps qui ne sert à rien d'autre que le plaisir. Mm-hmm. Il n'y a pas ça dans le corps de l'homme. Le clitoris existe 100% pour le plaisir. Il n'y a aucune autre fonction que le plaisir.
C'est vrai. C'est fou, hein?
Alors, faut en prendre soin.
Mais puis le clitoris, en fait, c'est une femme sur cinq qui atteint l'orgasme par voie vaginale. Donc, on a quand même 4 femmes sur 5 qui atteignent l'orgasme par voie externe, par stimulation du clitoris.
Dans les deux cas, c'est le clitoris.
Oui, exact. Oui, absolument.
C'est par la
voie externe du clitoris. Ouais. Alors que par la voie interne, les œufs de jade, moi, c'était plus des boules chinoises ou des trucs là, pour travailler le plancher pelvien. Mais vraiment, les filles, là, faites-le, que ce soit pour vous préparer à votre accouchement, après l'accouchement, ça peut être bon aussi.
Vraiment.
Mais pour vos orgasmes, ça va intensifier vos orgasmes.
Plus long,
mais en plus
intense et plus de sensibilité.
Exactement. Mais en plus, tu tu serres lors de la relation sexuelle, lorsque tu serres autour de l'organe de ton conjoint, là, lui, il triple.
Il aime ça, tabarnouche.
Ben oui! Ouh. Ça serre, c'est une sensation additionnelle pour lui aussi.
Puis si,
t'es à tes débuts d'exercice, tout ça, lors de la relation, tu peux aussi, sinon, tu sais, pour ton conjoint, là, bref, tu peux déposer tes doigts aussi à la base de ton pubis pour comme serrer un peu comme le contour, là, de... Ça, ça peut être un petit truc comme ça qu'on donne.
Mais quel est le modus operandi de ça? Comment on fait pour entraîner ça? Est-ce qu'on le fait un peu tous les jours? Est-ce qu'on le fait avant l'acte?
Non, tu le fais d'une façon régulière. Tous les jours, ça devient peut-être intense, mais peut-être 3-4 fois par semaine.
Exercices de Kegel, tu peux les faire, tu sais, de contracter. Là.
Moi, je vais le faire longtemps. C'est la régularité, donc pas trop long, mais souvent.
Tu peux le faire au travail, tu peux le faire en attendant à la banque, tu peux le faire dans la voiture, tu peux le faire n'importe où, n'importe comment, mais avec l'œuf.
Oui, les études ont démontré que quand tu contractes ton plancher pelvien, ton canal vaginal sur un objet, tu développes 50% plus de force que quand tu contractes sur rien du tout. Puis si tu le sens, si tu sers ton poing dans ta main avec rien versus sur une balle, tu as vraiment l'impression d'être beaucoup plus fort quand tu contractes sur quelque chose.
Oui.
Donc, ça fait vraiment une énorme différence d'avoir l'œuf de Yoni, l'œuf de jade.
L'œuf de Yoni, exactement. Donc, et ça, est-ce que tu en vends, toi, des œufs de jade ou est-ce que tu sais où est-ce que les gens pourraient se procurer un œuf de Yoni?
C'est une bonne question, hein, parce que ça se vend pas dans les magasins.
Non, c'est ça.
J'en vends pour mes ateliers. Je fais pas le commerce.
OK.
Mais quand j'en sais.
Ça se vend pas dans les sex shops non plus, vraiment.
J'avais vérifié. Non, puis ça prend des sources certifiées parce qu'il y a plein de fausses pierres sur le marché.
Oui, donc, faites attention, les filles, là, ça va déséquilibrer un pH, cette affaire-là, si c'est pas.
Ouais. Il faut connaître ça un peu. Pas reconnu. Mettons, t'achètes comme du lapis lazuli, il y a du métal là-dedans.
Oh!
OK, puis le métal, c'est toxique.
Mais
ça se trouve des muqueuses. Donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on achète.
Exact. Maintenant, Julie, j'aimerais que tu nous parles de masculin sacré et féminin sacré. On entend ça de plus en plus. En tout cas, je ne sais pas vous autres. Moi, j'en entends parler de plus en plus. Je vois ça passer sur les réseaux sociaux. Le masculin sacré. Le féminin sacré, ça fait quand même plusieurs années que j'en entends parler. Mais le masculin sacré, c'est quoi? Il y a comme un mouvement qui se fait ou...
Qu'est-ce que tu connais du féminin sacré? Tu me dis, oh, ça, j'en fais quelques années, j'en ai parlé. C'est quoi pour toi le féminin sacré?
Le féminin sacré, c'est plus, je vois des femmes qui semblent très assumées, qui font justement de la danse extatique là, sur les réseaux, puis qui parlent de chakra, puis toute la patente. Là, je vais pas en profondeur dans le sujet, mais pour moi, ça, c'est féminin sacré. Alexine Queen, là, pour moi, ça, c'est une femme qui est dans son féminin sacré. La magie, là, puis le elle vit ça, là, vraiment très, 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 comment dire?
Intensément.
Intense. Elle est dans son féminin sacré, là, tu sais, elle est liée, là, à son énergie, puis à... C'est une sorcière, même, je pense. mais ça me dit pas plus que ça, en fait, tu sais, mis à part voir des femmes, tu sais, qui semblent vraiment très assumées et qui c'est ça, qui sont dans leur corps, dans l'ici et maintenant, là, mais autrement, ça ne dit pas grand-chose. Donc, je me dis, est-ce que c'est la même chose pour le masculin sacré?
OK.
Moi, ça m'apporte à rien du tout, là. Vraiment. Là.
T'as aucune idée, hein?
Ben, ça m'apporte au christianisme. Je suis pas sûr que c'est ça.
Non. OK. Première des choses à réaliser, c'est que on peut porter à l'intérieur de soi son féminin sacré et son masculin sacré. C'est
le yin et le yang.
De nos polarités intérieures.
Okay.
Donc, première des choses, gardez ça en tête que tu peux incarner ton féminin sacré, ton masculin sacré, que tu sois une femme ou un homme. Puis en fait, c'est ça qu'on veut.
C'est les deux serpents?
C'est les deux serpents, c'est le yin et le yang. Donc, le féminin sacré, c'est ça, sont représentés par les femmes, les personnes qui ont un corps de femme, et qui représentent les qualités du féminin sans toxicité.
Qui sont?
Qualité du yin. La réceptivité, la douceur, l'intériorisation, l'accueil. Quoi donc? J'ai comme un blanc, là.
Oui, non, mais on comprend le... Parfait. OK.
Parfait. Le masculin, l'énergie du masculin, c'est l'action, c'est la protection, c'est la structure, c'est l'organisation, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est plus tout ce qui est à l'extérieur, tandis que le féminin, c'est plus ce qui est intérieur.
OK.
Donc, c'est incarner ces qualités-là sans toxicité. Qu'est-ce que ça veut dire sans toxicité? C'est-à-dire, un féminin toxique, ça va être une femme, par exemple, qui va manipuler pour arriver à ses fins.
Ouais.
Ou ça va être un homme, dans son masculin toxique, qui va dominer mm-hmm. pour arriver à ses fins.
Ben, j'étais loin avec mon affaire de femme.
Ouais, je pense que...
Oui, mais ben, c'est pas sans raison, parce que j'ai une amie qui m'a montré là, sur Instagram, à un moment donné, une femme là, très connue aux États-Unis qui incarne le féminin sacré, puis crème, elle a dansé en bobette avec ses petites affaires en satin vert. Là,
ben oui,
ça
mais
rien
c'est...
à voir avec le féminin sacré.
Ça, c'est
okay. la féminité, elle s'approprie la sensualité,
le titre de féminin sacré.
Mais c'est pas okay. ça, le féminin
non,
sacré.
Non, c'est ça. OK, parfait. On est plus, c'est ça, dans l'érotisme et dans la sensualité que le féminin sacré.
Tu sais, on tombe dans des archétypes plus religieux. Mère Marie, c'est un archétype du féminin sacré.
Ah, j'étais pas loin dans le christianisme.
Ben ouais, écoute, ben, t'es plus proche que moi.
Ça, tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose d'hyper sensuel. Puis,
OK. Donc, tabarouette, y a rien de compliqué là-dedans, finalement.
Mais non.
Je voyais ça. OK.
Absolument.
Et, est-ce que tu vois de plus en plus d'hommes s'intéresser au tantra? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui touche beaucoup plus les femmes.
Ça m'a tellement surpris. Des fois, j'ai eu des ateliers de tantra solo où il y a eu juste des hommes.
Hein?
C'est souvent un 30-40% d'hommes, mais c'est quand même...
30-40, c'est quand même
c'est quand
énorme.
Même énorme parce que tous les gens qui font des ateliers sur l'énergie, la spiritualité, de façon générale, 10% maximum d'hommes.
C'est beaucoup plus que ce... À quoi je m'attendais? 30-40%
ouais.
vraiment? Là.
Vraiment, oui.
Ouais.
Peut-être qu'on est dans une ère aussi où on est plus ouvert à ça. Moi, je me souviens, j'ai déjà rencontré une femme dans le passé qui voulait m'initier à ça.
Ça te dit rien partout?
Non, j'avais envie de l'essayer. Finalement, ça n'a pas donné, mais je pense que c'est l'aspect spirituel, moi, qui m'anime beaucoup là-dedans, le fait d'être complet. Pour moi, c'est une quête inlassable de se découvrir soi-même. D'être complet. Je pense que ça habite beaucoup de personnes, surtout dans le monde dans lequel on vit, de développement personnel. C'est très à la mode aujourd'hui.
Ouais.
Peut-être qu'il y a un parallèle à faire avec ça.
C'est un chemin sans fin, parce que quand tu penses que tu es enfin complet, que tu as enfin trouvé ta paix intérieure,
il y a quelque chose.
En fait, tu as atteint un premier niveau. Puis là, il y a quelque chose qui monte dans ton
être. Ça finit jamais.
Ah, OK, j'ai une autre couche de profondeur à aller travailler pour recontacter ma paix intérieure. J'ai encore un truc à libérer pour encore plus moi-même.
Puis on est toujours en proie à ce qui nous arrive aussi. On peut vivre un événement qui va nous faire réagir d'une certaine façon, puis on pensait pas qu'on allait réagir comme ça parce qu'on pensait qu'on était complet. Finalement, on se rend compte qu'on était juste à moitié de qui on est.
Oui, totalement.
Et selon avec qui on est aussi. Hein,
c'est vrai.
On parle des relations avec des personnes où on est en totale confiance, tout va bien... C'est des personnes qui nous challenge pas. Puis là, oups, on rencontre une autre personne et qui nous déclenche dans nos insécurités, qui nous déclenche dans notre manque d'estime, qui nous déclenche dans tout à coup, j'arrive plus à parler ma vérité comme je le fais habituellement parce que j'ai peur d'être jugée, j'ai peur de pas être aimée par cette personne-là. Puis, Colin, j'étais sûre que...
Je l'avais.
J'étais dans mon pouvoir, j'étais en équilibre. Anyway, join the club.
C'est tellement intéressant et on a déjà dépassé le temps qu'on avait.
Ben voyons donc.
Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Écoute, Julie, est-ce que tu as des ateliers ou quelque chose qui s'en vient ou comment est-ce que des gens peuvent te suivre?
Allez voir sur Tantra Québec. Il y a quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de parler ce soir.
Oui.
Je pourrais revenir juste pour ça. Allez faire mon quiz. Quel type d'amant tantrique êtes-vous?
Hey, mais non, mais on fait ça, puis on se réinvite pour...
Êtes-vous élément eau, élément feu, élément air ou élément éther?
Wow, shit, là, on pourra repartir pendant 2 heures, j'ai l'impression.
Ah oui, mais là, ça explique différents comportements sexuels.
Ah oui?
Oui.
On parle pas des schémas érotiques, là.
Ça se rejoint quelque part, mais là, c'est plus une version tantrique. Mais ça explique pourquoi on connecte avec certains partenaires de façon incroyable, puis avec d'autres.
Tu peux pas avoir du feu puis de l'eau ensemble.
Ben, c'est du travail pour harmoniser. Mais oui, tout se peut, là. C'est pas qu'ils sont incompatibles, y a rien à faire, mais ça...
Du vent puis du feu, par contre, oh là là! ça marche, hein?
Pourvu qu'on soit bien dans nos croyances, c'est quelqu'un qui écrit ça sur le live, ben oui, exactement. Tant que vous êtes heureux, là, je veux dire, faites ce que vous voulez.
Donc, allez sur Tantra Québec.
TantraQuébec.com.
Allez faire ce quiz-là, c'est vraiment le fun.
On te réinvite dans quelques semaines pour regarder un peu nos résultats.
Oui.
Avec grand plaisir. Puis, des accompagnements en ligne. Si vous avez le goût de faire du travail personnel, accompagné, vous avez envie d'aller en profondeur, que vous soyez en solo ou en couple, c'est possible. Puis, il y a des retraites intensives d'une journée en présentiel aussi.
Super intéressant. Vraiment.
Alors là, à mon retour de Bali, on se fait un autre rendez-vous, puis on explore les 5 types d'amants tantriques. Ça vous tente?
Oui,
j'adore ça.
Ah oui, absolument.
J'adore ça. Vraiment. Ça m'a beaucoup parlé à soir parce que j'ai l'impression qu'on a parlé de croissance personnelle. Mais de la bonne façon pour une fois. Tu sais, des fois, là, tu sais,
on tombe dans le cliché, puis dans
exact.
Le...
Exact. Je veux pas parler contre les coachs de vie, là, quoique je pense que leurs principes philosophiques sont tous issus, justement, des grands courants philosophiques d'antan. Et là, on parle de quelque chose qui a été étudié sur des millénaires, peut-être, là, pendant des centaines d'années.
On est à un autre niveau. On est à un autre niveau énergétique.
Exactement, au niveau spirituel, et quelque chose de plus grand que nature, là-dedans. Merci.
Gratitude de t'avoir eu avec nous ce soir. Merci beaucoup, Julie Isabelle de Tantra Québec, qui vous fait rejoindre un peu partout sur le web. Merci beaucoup. Merci les auditeurs, vous avez réagi ce soir. C'était vraiment super le fun de vous lire. Merci, merci, merci. Merci Max.
Hey, merci à toi.
Comme toujours, un réel plaisir de t'avoir à mes côtés.
Un plaisir partagé.
C'était Las Exploratrices sur les ondes de choix. 98h Radio X.
Las Exploratrices.
Avec Mel Trudel. Radio X.